Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la réalisation et la technique, toujours mon complice Léo et votre serviteur André Satenza. Je suis en compagnie de Monsieur Julien Chanu. Monsieur Chanu est directeur de la maison d'enfants à caractère social Le Chêne Vert, située dans la commune de Flourens, tout près de Balma, pourrait-on dire la banlieue chic toulousaine. Vous êtes également le responsable de la résidence Occitania et puis de divers dispositifs que nous présenterons tout au long de l'émission. Monsieur Chanu, soyez le bienvenu.
Merci de me faire honneur de cette invitation et de vous retrouver autour de cette table.
Alors, vous avez démarré votre carrière comme moniteur éducateur. Par la suite, vous obtenez un diplôme d'éducateur spécialisé, un certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement, comme quoi le management vous plaît, vous avez peut-être des fourmis dans les pieds, dans les mains, vous avez envie de diriger des équipes. Donc c'est un certificat d'encadrement et responsable d'intervention sociale. Et vous avez obtenu également un diplôme de Master 2 de la prestigieuse Université Toulousaine Capitole. Mais avant de nous entretenir sur vos diverses activités, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs, sentinelles d'humanité, qu'actuellement, le gouvernement prépare le budget de la nation ainsi que le budget de la sécurité sociale. Alors, c'est le moment de faire valoir les intérêts du social, du médico-social et du sanitaire. La santé, le social, le médico-social doivent être considérés dans notre pays comme un véritable investissement. Un investissement pour préparer l'avenir, non pas un coût structurel qui encombrerait la République. Il vaut mieux prévenir, on le sait, en santé, mais c'est la même chose dans le social. Les structures et métiers du secteur de la cohésion sociale sont, me semble-t-il, la pierre angulaire du vivre ensemble, car il s'agit de préparer une société plus juste, plus solidaire. On peut peut-être oser la solidarité. Oui, il faut valoriser les salaires de ceux et celles qui accompagnent les plus vulnérables, personnes âgées, protection de l'enfance, les enfants qui sont maltraités, des personnes en situation de handicap, des jeunes autistes. Bref, les personnes vulnérables, il faut bien que quelqu'un fasse le job. Le système actuel est à bout de souffle. Il y a un risque fort d'effondrement. Il est donc urgent de faire les bons arbitrages budgétaires. J'en appelle aux députés et aux sénateurs qui doivent faire des propositions. L'ensemble des fédérations du secteur ainsi que le syndicat Nexem qui regroupe des employeurs du social et du médico-social ont fait valoir un plaidoyer qui circule aujourd'hui auprès de la représentation nationale. J'espère qu'ils pourront reprendre un certain nombre de propositions pour que le système soit à la hauteur de notre République. Cela étant dit, le social et notamment les MECS, la protection de l'enfance, Monsieur Chanu, c'est une priorité majeure, quoi. La protection de l'enfance souffre actuellement, il y a des problèmes.
Énormément.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a un souci, je pense, déjà au niveau de la prévention. On ne travaille pas en amont, on ne vient qu'amener des réponses aujourd'hui sur du placement. Et je crois qu'on a un des effets de la Covid, c'est-à-dire que la protection de l'enfance s'est arrêtée pendant la Covid.
Alors que les enfants étaient bien accueillis.
Oui, et
Vous n'avez pas été confiné, on pourrait
non,
dire ça.
Au contraire, on s'est mis en mode.
Vous avez travaillé tout le temps.
Tout le temps, du lundi au lundi, et je remercie encore tous les professionnels, quelle que soit leur fonction, en première ligne, de la maîtresse de maison à la secrétaire, au comptable, à l'éducateur. Tout le monde était là, on s'est relayé 7 jours sur 7 et on s'est transformé en colonie pour que eux et ces enfants et nous passions de cette situation, comme on dit toujours, d'essayer d'en faire quelque chose d'agréable. Et finalement, c'est des grands moments d'émotion qu'on a vécu ensemble, mais on a eu la chance d'être sur des gens engagés et militants au sein de cette institution qu'est le Chêne Vert, qui, voilà, au service des enfants.
On attendait beaucoup de M. Taquet. Il nous avait fait, pourrait-on dire, impression, certains diront illusion, premier gouvernement du président Macron, M. Taquet, qui semblait volontaire sur la protection de l'enfance, avec des annonces qui tardent aujourd'hui à se réaliser.
Oh, je crois qu'elles ne tardent pas. Je crois qu'on ne verra pas le jour de ces annonces. Alors, sur le principe, je trouve qu'elles étaient intéressantes, même si parfois surdimensionnées. Par rapport aux besoins de terrain. Mais je crois qu'on est encore sur une politique d'annonce pour mettre en avant une personne. Et derrière, les enfants sont les grands oubliés. Parce que finalement, maintenant, une secrétaire d'État, Madame Cobel, qui à son tour inonde LinkedIn de toutes ses rencontres politiques, qui est toujours intéressante, mais aujourd'hui, c'est la première fois, et je crois que c'est pas sa personne que je remets en cause, mais c'est la première fois que quand je vais dans des grands colloques, et que la secrétaire d'État est invitée, elle est huée par une partie des professionnels, ce qui n'était jamais vu, et ça fait quand même depuis 98 que je suis dans le milieu, je n'avais jamais vu ça. Ce qui ne veut pas dire que je cautionne, parce que c'est pas bien, mais je crois qu'il y a un vrai malaise dans la protection de l'enfance, qui est sur, je vais pas vous l'apprendre, sur le plan des salaires, sur le plan de la difficulté du travail, et du fait d'un manque de reconnaissance. Je crois que tant qu'on ne pensera pas qu'investir dans la protection de l'enfance et dans la prévention, c'est sûrement faire des économies sociales, mais des économies aussi financières, pour éviter la prison, pour éviter peut-être de la psychiatrie, bien plus cher et bien plus lourd, on n'avancera pas.
Alors, comment êtes-vous arrivé à la protection de l'enfance et dans le social ? J'imagine que ce n'est pas en vous levant le matin, vous dites, tiens, en se rasant, je vais être moniteur éducateur, éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance.
Non, c'est...
Votre parcours ?
Alors peut-être que je vais dire la seule chose de marrante de notre entretien, de ma part, c'est qu'en fait, bon, moi tout petit, mon père était éducateur technique en ESAT, en CAT, comme on disait à l'époque.
Alors, qui est une entreprise, ce sont des entreprises adaptées qui accueillent
des adultes,
donc,
voilà,
des adultes en situation de handicap.
Qui étaient à l'époque, donc ça c'était dans les années 80, des personnes handicapées avec une déficience assez importante. Voilà, et j'ai vécu des vacances, des week-ends, des journées avec lui dans cet atelier de bois, et j'ai eu cette première approche d'être éducateur, d'être auprès de gens, d'accompagner, d'avoir des sourires et aussi des rencontres et de recevoir, parce qu'on reçoit aussi de la personne. Et un jour, je me suis retrouvé devant un coprolite, vers un sérune, un coprolite, donc c'est un excrément de chien qui avait au moins 3000 ans du néolithique. Et ce jour-là, j'ai rencontré ma femme et j'ai compris aussi que je ne voulais pas faire de l'archéologie, mais que ce qui me manquait le plus, c'était d'être dans de l'interaction avec l'humain et que j'avais besoin de ça. Et j'ai laissé le pinceau, j'ai laissé le crayon, j'ai pris madame et je suis allé faire moniteur éducateur puisque j'avais fait des études et j'avais envie d'aller de suite retrouver le terrain et ne pas repartir sur des longues études de 3 ans d'XP. Et j'ai fait moniteur éducateur.
Et vous avez fait moniteur éducateur et d'entrée de jeu, vous êtes rentré dans plusieurs associations.
J'ai protection de l'enfance, une maison d'enfants dans le centre de ville de Toulouse, la Grande Allée. Et mon parcours, il faut quand même le dire parce que je crois que c'est important, c'est je suis aujourd'hui ce que je suis grâce à des rencontres de professionnels qui ont cru en moi et qui m'ont aussi donné un moment la confiance de me dire que ce que je fais dans mon travail, il fallait continuer à aller de l'avant, avancer et ne pas s'arrêter à ce que je faisais, mais toujours proposer des projets. Et puis le parcours a fait qu'aujourd'hui...
En tout cas, je vois que vous êtes très, très, très actif dans des colloques, les instances, dans les écoles. Vous intervenez, vous animez diverses conférences. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y en a une qui interpelle, qui mérite peut-être une attention particulière. Vous travaillez sur la pédagogie non punitive, on y reviendra. Alors expliquez-nous, une maison d'enfants à caractère social, ça accueille des jeunes de quel âge jusqu'à quel âge ?
Alors, une maison d'enfants de façon classique comme celle du Chêne Vert, un agrément pour nous, pour les plus jeunes, 3 ans, voilà, jusqu'à 21 ans. À 18 ans, normalement, la protection de l'enfance s'arrête, mais la chance en France est en tout cas la Haute-Garonne donne encore cette chance aux jeunes, on peut avoir des aides provisoires jeunes majeurs qui nous permettent jusqu'à 21
ans. Alors quand vous parlez de la Haute-Garonne, c'est le conseil départemental qui finance,
voilà.
C'est
conseil départemental.
Et voilà. Une maison d'enfants à caractère social, comme on dit, le chef de file, c'est le département.
Voilà, qui est le gardien d'une mesure, d'un placement d'un enfant, et qui nous le confie. Et puis nous, au sein de la structure, donc, on fait l'accompagnement éducatif, psychologique,
alors, si besoin. Pourquoi l'enfant est placé dans une maison d'enfants à caractère social? Que se passe-t-il? C'est le juge, c'est les gendarmes qui débarquent? Concrètement, comment ça marche?
Alors, concrètement, toutes les situations existent. Il y a des placements tout simplement administratifs, avec des parents qui sont en panne, qui sont en difficulté, qui, pour X raisons, demandent de l'aide et en arrivent à accepter ou demander à un moment que leur enfant soit placé quelque temps pour qu'il puisse se ressourcer, se reconstruire ou passer une étape compliquée. Après, il y a aussi le juge qui intervient et des placements, des fois, qui se font avec les gendarmes qui interviennent au domicile et qui prennent l'enfant et le placent directement sur de l'accueil d'urgence. Alors ça, c'est le CDEF pour la Haute-Garonne qui s'occupe de ça, c'est un départemental de l'enfance et la famille. Mais nous avons aussi des
places d'accueil d'urgence. Donc ce sont des enfants qui peuvent être en danger.
Des enfants en danger, qui peuvent avoir été sur de la maltraitance physique, psychologique, au niveau de la malnutrition. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sordides, mais les enfants, même en France, peuvent vivre des choses terribles, encore aujourd'hui, en 2023.
Vous accueillez combien d'enfants au Chêne Vert, à la MEX du Chêne Vert?
Sur la maison d'enfants du Chêne, on est actuellement à 104 jeunes. Voilà. Et on est organisé avec à peu près entre 30 et 40 jeunes qui ont un peu moins de 18 ans, donc placés sur des groupes éducatifs, des groupes collectifs, avec toujours des chambres individuelles, bien sûr. Et après, des appartements. On a des jeunes qui sont soit dans des colocations, en appartement diffus, les plus grands, qui sont sur des projets un peu plus d'insertion, ou en tout cas, qui sont beaucoup plus déjà dans l'acceptation déjà de leur placement et plus sujet aussi sur le fait de s'orienter sur une orientation scolaire ou professionnelle.
Ce sont des jeunes qui sont scolarisés dans les écoles du quartier ou dans le collège ou lycée du quartier ou centre professionnel. Vous essayez quand même qu'ils aient une vie, pourrait-on dire, la plus normale. Enfin, une vie d'enfant.
Voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il faut éviter de les stigmatiser. C'est pas parce qu'ils sont dans une maison d'enfants qu'ils ont plus ou moins de droits. C'est des enfants. Notre grand combat, quand même, avec l'éducation nationale, que j'égratignerai toujours un petit peu, c'est que ces enfants ne sont pas toujours les plus simples. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup, nous, avec autour de Florence, avec les écoles autour de nous. Et c'est vrai que nos jeunes enfants, qui ont entre 3 et 7 ans, qui sont dans ces écoles-là, au niveau du primaire, peuvent être un peu compliqués. Et l'école, des fois, a du mal à accepter de les prendre de suite.
Et donc, votre personnel intervient auprès de l'éducation nationale? Ouais. Vous faites du suivi?
On fait du suivi. J'ai des chefs de service qui participent.
Qui participent régulièrement aux rencontres, j'imagine.
Aux rencontres, aux situations éducatives que l'école peut nous demander. Et on essaie d'associer le plus possible, quand cela est possible, les parents, pour soutenir cette parentalité. Parce que ces parents-là, pour une bonne partie, ils sont en panne, mais ils ont le droit d'avoir accès à l'information, ils ont le droit de savoir où on en est et où est leur enfant et comment ça se passe et de donner leur avis. Donc il existe des documents, le DIPC, document individuel de prise en charge, où les parents peuvent aussi exprimer leur demande, leur accord ou pas par rapport au suivi des jeunes.
Les parents ne sont pas exclus du système. La loi reconnaît que le parent ou les parents doivent être consultés, mais quand il y a danger... Donc, il y a une mise à l'écart.
Voilà, il y a
les parents. Certaines distances, pourrait être.
Les parents ont des droits, ils ont des devoirs aussi, je rappelle.
Des obligations,
Des obligations, ils ont des droits. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose, moi, qui me tient à cœur avec la loi de 2022 qui est parue, c'est qu'on replace quand même l'enfant. Enfin, l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant qui va prendre le dessus et pas forcément toujours l'intérêt de la famille. L'intérêt de l'enfant prend le dessus sur tout le reste, même si des parents ne sont pas d'accord, si l'intérêt de l'enfant...
Donc l'intérêt majeur de l'enfant.
L'intérêt majeur de l'enfant, ça y est, on a mis du
temps. Et ils savent l'exprimer, les enfants, quand ils s'adressent à vous, ils s'adressent aux éducateurs, ils savent ce qu'ils vivent, ils arrivent à exprimer leurs difficultés.
Oui, ils y arrivent parce qu'en fait, ces enfants développent aussi plein de compétences dans la vie, puisqu'il faut... qu'ils apprennent à vivre en collectivité, il faut qu'ils apprennent à être autonomes plus vite que d'autres. Il y a plein de choses qu'ils doivent rapidement appréhender pour devenir des jeunes autonomes. Donc, savoir s'exprimer, il y a des groupes de parole au sein de la structure qui qui sont sur les groupes. Il y a ensuite un conseil de vie sociale où ils ont des enfants qui sont élus, qui peuvent dire aussi ce qu'ils ont envie pour le groupe, pour eux. Et puis après, il y a un projet individuel. Chaque enfant est reçu par un chef de service, un éduc, et il discute un petit peu du projet. Son avis est pris en compte. Et comme je leur dis toujours, nous, à un moment, on va être un peu l'avocat de leur avis. Ce qui ne veut pas dire que c'est parce qu'on va dire ce qu'ils ont envie, qu'il y aura ce qu'ils veulent, mais au moins, ils auront pu être acteurs dans leur projet. Être acteur, ce n'est pas forcément avoir ce qu'on veut. Être acteur, c'est pouvoir exprimer son avis et comprendre pourquoi à un moment on fait les choses et participer à des réunions. Donc voilà, tout petit, en adaptant, les enfants ont droit à la parole.
Aujourd'hui, 10 octobre, vous avez reçu dans votre site, au sein de votre site Le Chêne Vert, où se trouve la résidence Occitania, un certain nombre de personnalités du département pour célébrer, pourrait-on dire, et discuter, présenter les résidences, des pensions de famille, résidences Occitania. Alors on dit résidence, pension de famille, il y a tout un lexique intéressant. Alors c'est quoi exactement ces résidences sociales, en définitive?
Alors, ces pensions de famille, c'est aujourd'hui...
Vous aviez aujourd'hui sur le site 80 personnes.
Oui, c'est ça.
C'était le moment festif.
C'était les journées nationales, donc on a reçu pas mal de monde de la cohésion sociale qui est venu visiter cette résidence, alors qui est particulière. Et bon, après, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'idée de M. Castel, donc le directeur du pôle social, qui un jour a eu une idée de faire une pension de famille sur le terrain où était la maison d'enfants pour travailler l'intergénérationnel et permettre aussi que certaines personnes de la rue, des gens dans la difficulté, puissent venir se retrouver dans un environnement bienveillant avec des enfants, pas très loin, avec un environnement protecteur. Et cette pension de famille, aujourd'hui, est une pension de famille qui fonctionne, et d'ailleurs qui a eu beaucoup de retours très positifs aujourd'hui. Et elle accueille 25 hommes ou femmes qui ont pour tous dépassé, on va dire, d'addiction. Un moment, la vie a basculé. Mmh. Voilà, c'est des gens qui pouvaient travailler très bien chez Airbus, être tout à fait dans une situation classique. Et un jour, pour X raisons, il y a la bascule, ils tombent malades, précarité, puis la rue. Et de la rue, à un moment, la pension de famille, c'est leur tendre la main pour pouvoir retrouver un toit, une certaine autonomie dans cet appartement.
Il y a de l'autonomie, hein, c'est bien un appartement qu'ils doivent gérer, voilà. Prendre soin de leur appartement, mais il y a aussi des activités, pourrait-on dire, aux communes ou des rencontres communes.
C'est ça, avec eux. Et puis, il y a deux personnes, deux hôtes, on appelle ça, dans les pensions de famille. Mmh. Alors, c'est deux jeunes femmes qui s'occupent sur la partie. Alors, ce n'est pas des éducatrices, c'est des conseillères économiques.
Des conseillères économiques.
Voilà, sociales et familiales qui sont là et qui font vivre aussi ce quotidien et qui apportent des réponses pour le bien-vivre. Et ce que je retiens de cette expérience, je ne connaissais pas les résidences, c'est toujours quand les gens ils me disent qu'on signe le contrat et qu'on me baille, ils me disent toujours merci parce que ce soir, je sais que j'ai un toit sur ma tête et je n'ai pas à savoir... Ou demain, je vais aller crécher, ou je vais devoir aller chez un copain, ou je vais dormir dans la rue. Et ça, c'est important.
Ces personnes payent un petit loyer ou quelque chose? Il y a bien une participation, c'est pas gratuit.
C'est pas gratuit, il y a une participation, mais je pense qu'on aimerait tous payer un loyer à cette hauteur-là de l'appartement, puisqu'on tient compte, bien sûr, de leurs revenus. Et bon, la plupart ont des aides pour X raisons, soit il y a du handicap, soit ils ont travaillé un moment, ils ont quand même quelques aides sociales qui font que leur quote-part de loyer est pas très importante, entre 60 et 130 euros maximum, ils doivent payer. Voilà.
Et ils peuvent rester combien de temps?
Certains partent en maison de retraite, d'autres partent, je dirais, pour toujours, mmh. à partir de cette résidence, mais avec le sourire. Voilà, c'est ce que me disait aujourd'hui un des résidents. Il me disait, Monsieur Chanu, je partirai d'ici sûrement dans entre quatre planches à Sapin, mais qu'est-ce que j'aurais été bien ici. Voilà.
Donc, voilà. C'est des moments de paix, un lieu amen, un lieu où on peut se ressourcer.
La vie.
Donc,
vous savez comment je suis de la vie. C'est-à-dire qu'on donne, mais qu'est-ce qu'on reçoit de ces gens-là aussi?
Voilà. Dans la résidence. Alors, il y a d'autres dispositifs, parce que là, vous avez, pourrait-on dire, pléthore. Hein, tous répondent bien à des objectifs très, très, très précis. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de rendre hommage à un grand Bachung et qui chante avec François Zardy.
qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
baisers volés, rêves mouvants.
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois,
les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre. Se sont envolés, pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, présent au studio Gisèle Halimi avec Monsieur Julien Chanu, le directeur de l'AMEX d'enfants à caractère social Le Chêne Vert, de la résidence Occitania et un certain nombre de dispositifs que nous allons décliner et aborder. Commençons par ce premier dispositif qui est dispositif de service d'internat. Alors j'imagine qu'il s'agit de jeunes plus ou moins âgés qui dorment, qui sont dans des appartements avec plus ou moins d'autonomie, encadrés par du personnel éducatif et qui mènent, pourrait-on dire, une vie tout à fait à peu près sereine. Est-ce qu'on peut dire ça?
Tout à fait. Être sereine et pleine de désirs et d'envie de réussite. Donc c'est un service, je vous ai dit, c'est à peu près les jeunes qui ont entre 3 et 16 ans, qui sont sur l'internat. Donc on est ouvert, nous, 365 jours par an, 7 jours sur 7, hein, on ne peut pas fermer. 24 heures sur 24, il y a toujours des professionnels. Donc, ces services d'internat permettent d'accueillir ces jeunes dans des chambres individuelles, dans des groupes d'âge, pour tenir compte avec la mixité, et des groupes d'âge classiques et des groupes qui ne dépassent pas 8 jeunes. C'est fini les grands groupes, comme on peut avoir l'image des orphelinats.
Donc, c'est bien c'est des un espaces. Peu le côté familial, quoi, là. Des, vous voilà, préservez, pour... il y a un semblant d'embryon familial.
Pour tous les petits groupes, les 3, 6, 7 ans, ce sont des villas type maison, monsieur et madame tout le monde,
d'accord,
qu'on a aménagé pour que les enfants restent dans un environnement qui leur correspond.
Ce n'est pas une grande demeure qui est un internat. Ça reste, c'est une maison qui est adaptée avec les normes de sécurité, j'imagine.
Oh oui.
Oui, et beaucoup très de nombreuses, sécurité.
Très nombreuses, surtout avec les petits, avec un taux d'encadrement aussi pour les petits importants, puisque voilà, il faut faire, il y a les douches, il y a donner à manger, il y a énormément de choses à faire. Mais un environnement le plus serein et le plus familial possible pour que ces enfants soient rassurés, une assurance interne que peut amener cette petite maison et pas des grands locaux et pas des dortoirs.
Alors vous êtes installé dans toute la région, pourrait-on dire, toulousaine, la commune de Toulouse ou les alentours?
Alors
vous avez les villas?
Sur les villas pour les enfants, on en a une à Quinte-Fonce-Grive.
Quinte-Fonce-Grive.
Après, sur le siège de l'Andras, donc au Chêne-Vert, nous avons une des villas aussi, les Toéris, les Sphinx, les Griffons, les Phénix. Donc, c'est des unités qui vont de 3 jusqu'à 16 ans, comme je vous dis, mixtes, de groupes d'enfants, 8 maximum. Et des équipes éducatives, donc des éducateurs, des maîtresses de maison, des moniteurs éducateurs, des surveillants de nuit, des psychologues, chefs de service qui accompagnent.
Alors, ça représente
enfants.
Combien de personnel dans l'ensemble de ces dispositifs que vous dirigez, Monsieur Chanu?
Alors aujourd'hui, j'ai la responsabilité, j'utilise bien le mot, de 147 personnes.
C'est une belle entreprise, là.
Professionnels, oui, qui me permettent d'aller au bout de cette mission parce qu'ils sont tous autant impliqués que moi dans le fait qu'on vit avec le sourire parce qu'on accompagne des enfants ou des grands ados. Mais comme me disait Léna Fon, chef de service, quel pied ?
Question, je rencontre régulièrement des directeurs, des directrices, directeurs généraux, directrices générales, etc. Pénurie du personnel, d'éducateurs, etc. Vous, ça va, vous arrivez à recruter?
Oui.
Il y a alors, une bonne image, vous avez une marque employeur de qualité.
Voilà, alors le terme du moment que vous m'avez souvent répété autour de l'attractivité. Donc, l'attractivité...
L'attractivité est bonne, pourrait-on dire.
Est très bonne. Moi, je n'ai pas de problème aujourd'hui de recrutement et je n'ai que des gens diplômés. Tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé avec les équipes, la cohésion autour d'un projet commun. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de foot en salle où des professionnels se retrouvent pour représenter le Chêne Vert, mais aussi avec des jeunes. Il y a un footing, j'ai un projet depuis toujours qui s'appelle « Courir dans la cité ». Donc la cité, le terme noble donc des Grecs, la cité grecque, où je veux que les jeunes, en courant, en participant à des courses caritatives, aient la sensation d'être citoyen. Et ils ont couru, on était 40 à représenter le Chêne Vert pour Octobre Rose, le 1er octobre.
Donc, des activités citoyennes, on s'implique, on est dans la cité, oui.
On est dans le vivre ensemble, le vivre avec ces jeunes, pour créer ce lien. Et du coup, il y a un confort pour tout le monde. Voilà. Il y a aussi des démarches, les travaux, les enfants peuvent participer aux travaux avec des gratifications, donc ils prennent soin des locaux puisqu'ils peuvent aussi les entretenir. Et donc il y a un vivre ensemble qui fonctionne bien. Mais je crois que là où je suis content sur le Chêne Vert de travailler avec tous ces gens-là, c'est qu'on est tous dans un... Tout le monde participe à son niveau, à des activités sportives, à des activités culturelles, en plus de son travail, pour vivre des choses avec les jeunes.
Autre service, alors le service externe, et là vous avez pareil plusieurs sites, et quelque chose, mais c'est intéressant, que vous avez appelé un service externe Reliance. Là c'est particulier comme concept là.
Oui.
Alors c'est quoi?
Alors Reliance...
C'est pas Résilience, c'est non, Reliance.
Hein. C'est Reliance. Et un dispositif d'accompagnement à la lutte contre la précarité et pour l'accès aux droits. Alors,
ça s'adresse plutôt à des jeunes adultes, pourrait-on
voilà.
dire.
Donc, comme je disais, la protection de l'enfance avec l'aide provisoire jeune majeur s'arrête à 21 ans. À partir de 21 ans, il n'y a plus rien et on sait qu'il faut attendre 25 ans pour le RSA. Monsieur Taquet avait évoqué qu'il ne voulait plus de sorties sèches dans la protection de l'enfance.
C'est-à-dire des enfants qui sortent de dispositifs et qui peuvent très rapidement se trouver à la rue, quoi. C'est ça,
exactement.
Concrètement.
C'est ce qu'on
c'est ce que cela veut dire.
C'est ce que cela veut dire. Et c'est ce qu'il peut se passer. D'accord. Et donc le département de la Haute-Garonne nous a demandé à titre expérimental d'ouvrir un service de suite qui s'appelle Reliance. Et ce service donc accueille à peu près entre 50 et 60 jeunes, donc sur plusieurs missions. C'est-à-dire, certains, on a un appartement où on fait de l'accueil d'urgence pour pouvoir accueillir deux jeunes qui sont dans la rue du jour au lendemain. On a 10 appartements qu'on sous-loue à des jeunes qui travaillent, mais qui n'ont pas de famille, qui ne peuvent pas avoir accès du coup à du logement.
Alors, comme vous avez dit, des jeunes qui travaillent, ils travaillent où ces jeunes ? Donnez quelques exemples.
Vous avez des jeunes qui vont être dans la restauration collective.
D'accord.
Quelques-uns, on en a deux ou trois qui sont en tout ce qui est boulangerie, restaurant. On en a quelques-uns dans les métiers du bâtiment. On est plutôt dans ce type de métier. Et voilà, alors ça, c'est les...
Des métiers manuels, hein.
Des
voilà.
Métiers manuels.
Mais
on a quelques jeunes qui ont fait des études supérieures, mais c'est toujours pareil, les études supérieures, après, pour arriver à les payer, c'est un peu compliqué, donc ils partent sur des apprentissages. Et de ce service de suite, après, il y a les 40 ou 50 autres qui sont des jeunes qui, à un moment dans leur parcours, après 21 ans, où il n'y a plus... vont être en panne, vont avoir un incident, un accident, et ce service-là doit venir... leur tendre la main pour soi sur des papiers, retrouver des droits, retrouver un logement, les accueillir et les accompagner pour repartir rapidement sur des dispositifs de sécurité.
Et là, les sorties sont plutôt positives. C'est-à-dire oui. Que quand on s'en occupe, ce sont des jeunes qui reviennent dans la vie, pourrait-on dire, ordinaire. Oui. Ils trouvent un apprentissage, ils travaillent. Mais c'est vrai qu'il y a un accident dans la vie.
Qui peut arriver à tout le monde.
Qui arrive à tout le monde.
Ce n'est pas parce qu'on est la protection de l'enfance. Alors, par contre, ce service, on est bien d'accord. J'accueille entre 50 et 60 jeunes avec seulement 3 professionnels. Mais c'est pas pour le chêne vert, c'est pour l'ensemble des jeunes sortant de la protection de l'enfance
du département.
La Haute-Garonne.
Du département.
50 ou 60 passes, donc je n'ose...
Alors qu'il y a une concentration sur Toulouse, bien entendu.
Quoi. Énorme, c'est... énorme.
Ouais. Donc on... la Toulouse sert d'aspirateur, pourrait-on dire, pour le dispositif, parce que les jeunes peuvent se trouver à l'abri ou peuvent trouver...
On ne peut pas nier que le conseil départemental de la Haute-Garonne met quand même... beaucoup d'argent dans la protection des jeunes. Ils pourraient en mettre plus ou mieux, mais ce n'est pas un département qui a lâché la protection de l'enfance. Ça, il faut quand même reconnaître par rapport à des départements voisins qui sont beaucoup plus, on va dire, durs envers les jeunes.
Autre service, les services sans hébergement. Et alors là, vous avez le PAD, vous allez m'expliquer ce que c'est. Vous avez le... SAJ, etc. Donc, et puis un service de radicalisation, c'est plutôt prévention contre la radicalisation. Vous m'expliquerez, je crois que vous travaillez avec les services de la préfecture directement. Alors, le PAD, alors dites-moi.
Alors, le PAD, le placement à domicile, c'est un dispositif assez particulier qui est apparu sur le département à partir de 2018. 2019, alors que c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps, c'est tout simplement que l'enfant est placé, mais à son domicile, et qu'il y a une équipe éducative qui intervient dans un...
Alors intellectuellement, il faut expliquer. Donc le juge dit cet enfant est placé, donc il est protégé,
voilà.
Mais il reste chez papa et maman.
Il reste au domicile familial.
C'est limite, non, en tant qu'éducateur, comment vous m'expliquez ça ? Parce que s'il est en danger et on le laisse avec les prédateurs, pourrait-on dire, là j'exagère, mais quand même...
C'est que le juge a souvent évalué...
A évalué la situation.
La situation, et qu'il pense que les parents ne sont pas forcément maltraitants, mais que les parents peuvent être en panne éducative et qu'ils ont besoin d'être soutenus dans des réponses.
D'accord.
Je prends toujours la situation, une situation de mère monoparentale avait cette culpabilité d'élever toute seule un enfant et de toujours dire... je l'élève tout seul. Au bout d'un moment, souvent, elle dit oui, elle dit oui, elle dit oui. Et au bout d'un moment, l'enfant devient un tyran. C'est peut-être pas pour ça qu'il faut les séparer, que l'enfant doit subir un placement. Parce qu'un placement en institution, même si au chêne vert, je dirais que c'est du placement 4 étoiles, ça reste une séparation, ça reste une cicatrice dans un parcours de vie. Et c'est la meilleure des mauvaises réponses, le placement en institution. Il faut quand même se le dire.
Donc il faut faire en sorte que l'enfant reste dans son milieu naturel.
S'il peut rester dans son milieu naturel avec une équipe soutenante, alors l'équipe, ils sont deux et ils vont travailler 4 situations, 5 situations pour un duo de 2 éducs. Donc ils peuvent soutenir les parents. Et soutenir les parents, c'est amener des fois des parents voir un match, voir leur enfant jouer au foot le samedi ou au rugby le dimanche, aller à l'école pour prendre les devoirs, plein de petites choses. Donc le placement à domicile est un moyen d'éviter un placement en institution, mais ça peut être aussi un moyen de sortir de l'institution.
Est-ce que l'éducateur ou l'éducatrice, le psychologue, participe, va dans la demeure des parents, peut s'inviter à dîner, à déjeuner? Est-ce que vous allez jusqu'à là ou pas?
Alors,
est-ce que c'est une pratique qui peut se faire? Vous savez, on dit il faut aller vers. Est-ce que vous faites ce aller vers?
Il y a le aller vers sur des repas qui peuvent se faire sur l'extérieur. Mais le lieu même de la maison, on ne va pas manger avec les parents dans leur maison. Par contre, on va intervenir avec eux dans leur maison autour de gestes du quotidien pour les soutenir. Et je vous dis, de leur dire, oui, il faut dire non à ce moment-là. Et vous avez raison de dire non. Ou vous avez raison, ou pas, de ne pas être présent pour accompagner votre enfant, voir le match de foot. Ou on peut faire autrement, peut-être que lui crier dessus quand on n'est pas d'accord. Voilà. Mais qui ne mérite pas une séparation. Non.
Placement à domicile, le SAJ.
Service d'accueil de jour. Le service d'accueil de jour, c'est un service exceptionnel.
Exceptionnel dans quel sens?
Alors,
vous avez du personnel de très haut niveau.
J'ai du personnel, un chef de service de très haut niveau. C'est un dispositif qui a pour mission d'accompagner des jeunes décrocheurs scolaires, des jeunes dans l'isolement éventuellement social, isolés par rapport à l'environnement qu'il y a autour d'eux et qui ont besoin à un moment de retrouver du désir. Et donc ces jeunes peuvent être placés en PAD, peuvent être placés dans d'autres MEX, ne peuvent ne pas être placés, mais avoir juste une mesure de service d'accueil de jour. Et du coup, ils arrivent chez nous, et à travers des médiations qui sont le sport, la ferme éducative et pédagogique, puisque nous avons une ferme pédagogique, à travers du soutien à la scolarité, de la musique, il y a énormément de médiations. Ces jeunes-là, à un moment, vont pouvoir raccrocher quelque chose et reprendre le désir de trouver du sens à pourquoi se lever. Et à partir du moment où on a raccroché ça sur ce service d'accueil de jour, ce service d'accueil de jour qui est donc partenaire avec le ministère du Travail, on peut faire des conventions de stage pour amener ce jeune à aller découvrir des métiers, tout en étant accompagné par un éducateur de l'accueil de jour. Et il peut soit rentrer au CFI, centre de formation professionnelle que nous avons, interne, qui vous permet à travers un restaurant d'application que vous connaissez, de faire soit cuisinier, soit agent de restauration ou serveur, voilà. Donc, restaurant d'application qui est ouvert du lundi, mardi, jeudi, vendredi, entre midi et deux, et ouvert à tout le monde.
Dans les Toulousains.
Venez nombreux.
Peuvent prendre rendez-vous. Il faut réserver.
Il faut réserver parce que le menu est à 9€ et d'une qualité de grand restaurant. Donc, beaucoup de gens viennent et, par contre,
Ce
sont les jeunes qui vous servent.
Qui font la cuisine et qui vous servent.
Qui vous servent et qui ont la possibilité ensuite de passer le diplôme, mais qui ont un diplôme niveau du CAP, cuisinier, agent de restauration, serveur, puisqu'on est aussi centre d'examen.
Centre d'examen.
Missionné par le ministère du Travail.
Vous avez le retour d'expérience sur la formation, un bon taux de réussite aux examens?
Oui, je crois que sur les 12 l'année dernière, je crois qu'on a eu 11 jeunes qui ont réussi. Et comme c'est des compétences, le 12e qui n'a pas eu les 4 modules, il en a eu 3. Donc il peut les garder et les réutiliser et revenir l'année prochaine ou plus tard. Il n'aura plus qu'une compétence à passer. Et aujourd'hui, quand vous allez chez Bistro Régent, sachez qu'il y a au moins 2 ou 3 jeunes qui sont
passés
formés
par ce dispositif.
Par ce dispositif et qui travaillent dans les cuisines ou dans le service et avec qui on a un très bon partenariat. Ils sont très contents des jeunes.
Donc il ne faut jamais désespérer, c'est ça dans votre métier? Non? Jamais désespérer?
Jamais désespérer, mais c'est surtout que ces enfants, ils ont des capacités incroyables et que si on les regarde comme des adultes capables de réussir et pas comme des enfants qui ont subi quelque chose, ils peuvent faire des choses extraordinaires. C'est notre regard qui doit leur dire « tu es capable ».
Quand ils partent, ils ont réussi, ils travaillent, ça se passe bien. Est-ce qu'ils viennent vous rendre visite?
Oui.
Est-ce que les anciens disent « tiens, je me souviens d'un certain Gérard ou je me souviens d'un certain Julien, mon directeur
?» J'ai un jeune la semaine dernière qui est venu avec une ancienne éducatrice à la retraite qui a réussi à avoir ses papiers de résident et qui est venu amener une bouteille de vin pour l'équipe du Chêne Vert pour remercier tout le monde. Et ça fait 2 ans qu'il est parti. Et j'ai toujours ce sentiment que c'est les plus compliqués qui reviennent, qui nous disent « je ne vous ai pas toujours écouté, mais heureusement qu'à la fin, ce que vous m'avez dit, j'ai pu m'en servir autrement. » Ça m'a servi. Et après, ils viennent faire la morale aux plus jeunes. Il faut les écouter, les éducateurs. Fais pas comme moi. Donc, ça prouve qu'il y a... Voilà. Puis après, moi, il y a des jeunes qu'on continue à voir et qui courent encore avec nous sur des courses à l'extérieur, qui ne font plus du tout partie de l'institution, mais qui viennent retrouver un moment de partage d'émotions. L'éducation spécialisée, c'est avant tout une affaire d'émotions. C'est ça.
Autre de service, c'est un service important, prévention à la radicalisation. Mmh. Alors là, c'est assez complexe, hein, parce qu'il y a eu des initiatives... lancé en France par d'autres associations qui ne se sont pas soldées, beaucoup de succès, il y a eu même des fermetures. La question de la radicalisation, c'est quand même très complexe. Comment abordez-vous cette question ? Et alors, comment êtes-vous arrivé à proposer ce service à la préfecture ?
Alors, c'est la préfecture qui, par... des informations de partenaires nous ont proposé d'ouvrir ce service en utilisant l'accueil de jour ou une équipe qui pourrait se déplacer pour accompagner ces jeunes radicalisés. Alors, ces jeunes sont souvent des jeunes qui sont soit par leurs parents, leur père, l'école, montrés du doigt en disant « attention, il y a un risque de radicalisation, il y a
où
une radicalisation ».
Ils sont en totale rupture, pourrait-on dire. Totale rupture.
Voilà. Et on nous demande à ce compte-là d'intervenir. Et moi, ma grande surprise, je me suis rendu compte que c'était des enfants qu'on aurait pu avoir complètement dans la protection de l'enfance. C'est-à-dire que c'est des enfants vulnérables qui, à un moment, sont en rupture scolaire, en difficulté, les réseaux sociaux... Ils accrochent sur quelque chose, une mauvaise rencontre, et ces jeunes vulnérables deviennent des enfants complètement radicalisés, mais qui ne sont en fait que les objets pris en otage de gens qui les manipulent. Et donc tout notre travail, nous...
Là, vous le dites, hein, clairement, il y a de la manipulation de ces esprits, comme on dit, faibles, vulnérables, et on en fait des instruments...
Voilà, on profite de cette vulnérabilité. Et souvent, après, on va dire, oui, mais qu'a fait cet établissement parce que cet enfant était dans cet établissement mais c'est bien s'il était dans un établissement qui avait des vulnérabilités. Et ces personnes-là profitent de cette vulnérabilité. Donc, on a une équipe mobile qui intervient auprès de jeunes et de moins jeunes. On a une personne qui est un peu moins de 40 ans aussi, sur laquelle on intervient, autour de faire voir autre chose que le discours obscur qu'on peut donner, en sachant que sur Toulouse, on est quand même sur une radicalisation plutôt religieuse, mais qu'il y a un service comme ça qui existe dans le nord de la France, où il y a d'autres radicalisations qui ne sont pas que religieuses, mais qui peuvent être aussi sur des choses plutôt fascistes, nazies, et où cette équipe aussi intervient, et sur laquelle nous pourrions être amenés, nous aussi, à intervenir, c'est-à-dire montrer qu'il y a autre chose que la voie de la haine.
C'est ça.
C'est ça. C'est la voie de la haine.
Des jeunes qui parfois baignent dans un milieu, un environnement de haine qui produit de la haine, etc. C'est combien de jeunes dans la c'est surtout, quand vous dites la préfecture, c'est concentré sur Toulouse, hein,
c'est concentré sur Toulouse. C'est très, très, un service quand même... très soucieux de rester discret, hein, la préfecture avait la CEPRAF. Donc nous n'avons accès qu'à 15 situations que la CEPRAF a pensées sur lesquelles nous pouvions intervenir et où nous avions une possibilité de faire bouger les choses. Il y a après des mesures sur lesquelles nous n'intervenons pas pour eux, où là on est sur sûrement du judiciaire ou des choses où c'est beaucoup plus police nationale, gendarmerie et services...
Il y a des situations qui vous échappent. Quoi,
qui nous échappent et sur lesquelles on ne serait sûrement pas...
Et vous
n'y
allez pas.
Trop tard, ou on ne serait pas même de pouvoir répondre à la situation. Et donc, le but, c'est aussi de nous envoyer là où on saurait intervenir et être levier de changement, et pas sur des situations impossibles.
Je vous propose d'écouter une diva du flamenco, Boïka.
Que de mano en mano va y
un solo abrazo para no matarla. Cerré los ojos para no llorar. Temió ser débil y perdonarla. Y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera. Ruega lo mismito que una maldición. Que un día permita que quien tú más quiera pague tus careles pague con mala traición. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Arcillo fino que allí dejara cuando se fue y aquella tranza de palo andrino que en otro tiempo cortó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Julien Chanu, directeur de l'AMEX Le Chêne Vert, maison d'enfants à caractère social. Nous avons présenté l'ensemble de dispositifs, nous parlions de la prévention contre la radicalisation, plusieurs services, plusieurs enfants. On peut dire que vous êtes dans le secteur Occitanie, une des plus grandes MEX d'Occitanie. On peut dire ça ?
Oui, ouais, c'est le cas. Non, c'est
un nombre d'accueils d'enfants, c'est 2 mètres carrés de dispositifs.
10 hectares rien que le chêne vert, et je crois qu'aujourd'hui on accueille 350 mesures, voilà, avec le placement à domicile qui commence dès 0 ans et 1 jour, jusqu'à 25 ans avec Reliance, et ensuite avec la résidence.
C'est l'ensemble des dispositifs dont vous êtes dans... La maison mère, comme on dit, hein, l'association gestionnaire, c'est l'ANRAS.
L'ANRAS, voilà. Qui est sur le siège, est sur le même terrain que le Chêne Vert, donc on est voisins et on est là aussi dans le vivre ensemble.
Alors, vous êtes très actif en pédagogie parce que vous êtes sensible à ça. Vous dites ce que j'ai reçu, je souhaite aussi donner. Alors, vous intervenez régulièrement, soit dans des colloques, soit dans des conférences. Vous intervenez à l'Institut. De travail social Erasme, vous intervenez également à l'Institut Saint-Simon, vous êtes dans des colloques, vous présentez dans des contributions intellectuelles qui concernent votre métier, vous avez fait des conférences également à l'Université Jean Jaurès. Alors il y en a une qui appelle de ma part un commentaire, ou en tout cas de passer en revue cela, la pédagogie non punitive. Alors, je vois bien qu'il ne faut pas punir les enfants, mais parfois, certains disent, oui, une petite punition, quand même, c'est nécessaire. Là, vous dites non. Non punitive, alors ça veut dire quoi ? Comment vous déclinez ce concept de pédagogie non punitive ?
Alors, je prends toujours...
Quel est le socle, pourrait-on dire, conceptuel de cela ?
Le socle, c'est que punir, c'est attaquer la personne. Et narcissiquement, les enfants que nous avons sont déjà très abîmés et ont déjà une très mauvaise image d'eux-mêmes. Je crois qu'il faut savoir sanctionner un moment, un acte posé par un jeune et donner une réponse avec de la construction. Je prends toujours l'exemple, quand j'étais petit, quand j'étais en primaire et que j'étais puni, j'avais une maîtresse avec qui j'avais pas de très bon rapport. J'ai jamais eu de bon rapport avec l'école. Et me mettait le nez contre...
Vous étiez un rebelle, Monsieur Chanu ?
Non, j'étais pas le bon élève, voilà.
Vous n'étiez pas dans le cadre, dans la bonne case, c'est ça.
Et je préférais courir derrière le ballon. Et donc, ça me valait quelques moments où j'avais mon nez qui devait toucher le platane dans la cour de récréation. Et les autres enfants continuent à jouer et bien sûr se moquer. Le seul résultat que ça a eu, c'est que de mon côté, ça m'a amené à me dire « Eh ben, tu m'as fait ça, je te ferai ça à la maîtresse et j'en rajouterai ». Ça n'a jamais été constructif. Et je pense que même ça m'a, au niveau de la confiance, mis en difficulté. Et je crois qu'aujourd'hui, les enfants qu'on a, dans les maisons d'enfants, en tout cas, je parle bien d'enfants qui sont placés au chêne vert, on doit leur amener des réponses où on vient mettre du sens à un moment à nos réponses éducatives, et donc il faut sanctionner l'acte et pas punir la personne. Je vous donne un exemple très simple. Le petit Luc joue avec Mohamed et se dispute et casse un carreau à un moment. Et je me retrouve avec une intervention très rapide, mettre en sécurité le site, changer la vitre. Jean-Claude, l'ouvrier d'entretien, qui devait ramasser des feuilles parce que la directrice générale devait venir visiter le site, est mobilisé de suite pour venir réparer ça. Il y a deux solutions. Il fait le travail et je punis les jeunes, je les punis dans leur chambre. Ou à un moment, je les reçois et je leur dis « Bon, je suis dans telle situation, vous avez cassé ça, c'est pas possible, vous avez fait n'importe quoi, Jean-Claude va être obligé d'intervenir et de réparer pour mettre en sécurité, mais Jean-Claude devait faire tel truc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir et réparer votre erreur ?» Ce seront les premiers à vous dire qu'ils iront ramasser les feuilles. Alors que si je leur avais dit « La punition, c'est d'aller ramasser les feuilles », ils n'y seraient jamais allés. D'accord. Et ils m'auraient envoyé le balai.
Donc vous avez conceptualisé cela. Oui. Vous expliquez cela dans les écoles aux futurs moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés. Mmh. Ils y adhèrent, les jeunes professionnels ou futurs diplômés, à cette pédagogie ?
Alors je pense que les 5 premières minutes, ils se demandent qui je suis pour arriver à en faire de l'éducation sans l'autorité dure et rebelle, puisque ça nous rassure et ça nous
sécurise. Parce que souvent on veut de l'autorité.
Voilà. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils comprennent que la pédagogie éducative non punitive, c'est pas une boîte à outils, c'est un référentiel commun. Les éducateurs, ils ont reçu, s'ils sont 5 éducations différentes. Et ils ont des valeurs différentes. Sauf qu'à un moment, il faut se retrouver autour d'un référentiel commun pour intervenir dans le même sens du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, avec une continuité. Et donc la pédagogie éducative non punitive, c'est un moment qu'ils apportent tous des réponses dans un souci d'une sanction-réparation. Et ils l'apportent tous, quelle que soit l'éducation qu'ils ont reçue. Et c'est leur premier travail. Et moi, je viens leur témoigner que leur travail, c'est d'abord de travailler un référentiel éducatif.
Et le lien avec la justice restauratrice ou restaurative, là, est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous faites, la pédagogie non punitive ?
Alors, il y a eu des expériences autour de la justice restaurative qui n'ont pas toujours été des réussites. Je me rappelle où on avait tenté de mettre les enfants comme juges des situations pour penser que peut-être ils pourraient ils étaient pires que le vrai juge. Ça a pas toujours très
on bien est plus dur toujours
hein, toujours plus dur. Il y a une véritable excitation à punir les autres. On a envie de faire souffrir l'autre. Il y a une culture judéo-chrétienne qu'on peut pas nier, qui est là, et qu'à la hauteur de la faute commise, on doit en souffrir. Et donc, on doit faire souffrir l'autre. Et alors, si en plus, c'est envers nous qu'on a reçu quelque chose, encore plus. Donc, la pédagogie éducative non punitive, c'est faire le pas de côté, se désexciter pour amener des réponses restauratrices, constructive et ne pas nuire narcissiquement à ces enfants qui sont déjà souvent abîmés.
Vous avez aussi fait une intervention sur les pratiques éducatives, sur la question de l'argent de poche, l'argent des enfants, c'est un problème. Vous jouez quoi avec ça ? Qu'est-ce que vous tentez de faire à travers la monnaie, l'échange, l'argent de poche ?
Alors, moi je suis le don contre don. Je crois qu'on en a souvent parlé. Je crois qu'il y a des choses possibles avec l'argent de deux façons. Moi, prendre l'argent de poche à un enfant pour le punir, pour qu'il aille piquer les clopes ou le jouet ou je sais pas quoi de son voisin, ça n'a aucun intérêt. Puisque s'il en a besoin, il va... Par contre, à un moment, lui proposer, soit dans l'établissement, des activités où il va pouvoir avoir une gratification ou un moment de donner pour recevoir à travers des actions, je pense que c'est un moyen de rendre la personne citoyenne et d'accepter aussi toujours pareil ces sanctions. Donc, il y a le don contre don d'un côté pour pas aussi être en dette. Rien de pire que la dette.
Ouais. Faut pas mettre les gens en dette. On en fait des ennemis, hein, c'est ça.
Voilà. Et on en fait des ennemis. Je crois que même quand on veut soutenir quelqu'un, il faut toujours un moment lui laisser la possibilité à cette personne de ne pas être trop en dette. Sinon, il faudra qu'elle vienne rompre ce lien, il faudra qu'elle vienne l'abîmer pour se sortir de cette dette qu'elle a envers vous.
Alors, quelque chose de très, très pratico-pratique, l'argent de poche d'un jeune de 16 ans dans une maison d'enfants à caractère social, on sait ce qui se passe à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans une maison? Vous donnez combien?
Alors, l'argent de poche d'un enfant, ça va être à peu près entre 30 et 40 euros par mois. Après, il va y avoir une vêture, il va y avoir une hygiène, de l'hygiène, il va y avoir une enveloppe. Mais pour un jeune de 16-17 ans, par mois, je crois que l'enveloppe globale, il y a un peu moins de 300 euros. Qui comprend tout. Alors on peut dire 300 euros ça fait beaucoup, mais non, c'est la vêture, tout ce qu'il va y avoir au niveau alimentation scolaire, éventuellement s'il y a des cigarettes, le téléphone, tout ce qu'ils ont besoin du quotidien.
Très passionnant, mais l'heure tourne. Est déjà arrivée. Qu'est-ce que vous allez faire après, monsieur Chanu, quand vous aurez fait le tour du chêne vert?
Je resterai dans la transmission parce que je crois que j'ai beaucoup reçu et de ces gens-là j'en ai retenu beaucoup de choses. Et si je peux donner à ma petite mesure la chance aussi de rencontrer quelqu'un qui vous donne envie de continuer dans ce métier qui est un très beau métier, je ne serais pas peu fier de me dire j'ai participé à la construction professionnelle d'un ou d'une éducatrice ou éducateur spécialisé. Et ce serait ravi.
Merci Monsieur Chanu pour votre passion. Les enfants ont beaucoup de chance de vous croiser. Sentinelle d'humanité, Esprit Occitanie en direct du studio Gisèle Halimi. Écoutez, chers amis, à la prochaine avec d'autres invités du social et médico-social.
Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir.